Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Que Mélodie, je ne sais encore pas grand-chose de toi, on se retrouve dans mon salon. L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc « Regarde ailleurs », c'est donner la parole à des voyageurs, à des expatriés, à des écrivains, des conférenciers, des musiciens, tout autour de la dimension de l'interculturalité. On s'est croisés sur les réseaux sociaux. J'ai dû voir une ou deux publications qui m'ont interpellé, notamment en lien avec les peuples indigènes d'Amérique du Sud. Donc je crois que dans cette émission, on va voyager ensemble en Amérique du Sud, plutôt du côté du Brésil. Mélodie, donc voilà, l'idée c'est vraiment de prendre ce temps de se rencontrer, donc on va peut-être revenir à toi, enfant, avant de devenir voyageuse. À quel moment est-ce que tu as su que tu avais envie peut-être un jour de quitter ton Sungo natal?
Alors, je pense que c'est pas quand j'étais enfant, mais c'est plutôt quand j'étais étudiante. Je faisais un DUT carrière sociale à Belfort et on avait des cours d'anglais et... La prof nous a proposé d'étudier un texte qui parlait de gap year, où on voyait que les Anglais avaient l'habitude, avant de commencer leur carrière professionnelle, de prendre une année de césure pour découvrir le monde. Et là, je me suis rendu compte que c'est ce qu'il fallait que je fasse, parce qu'en fait, je connaissais pas grand-chose du monde. J'avais envie de mieux comprendre ma propre culture, mon propre pays. Et je crois que pour comprendre, il faut sortir, parce qu'il faut voir autre chose pour mieux se comprendre soi. Et du coup, j'ai décidé de partir en Écosse.
Donc, c'est pas ta famille ou t'avais pas des parents voyageurs qui t'ont très jeune amené à l'étranger ou à l'international?
Non, pas du tout. Okay. J'ai eu l'opportunité d'avoir ma première expérience en FLE parce qu'à l'université de St. Andrews, donc c'est là-bas que j'étais, ils cherchaient quelqu'un pour donner des cours, une lectrice. Et du coup, j'ai commencé à 20 ans en fait, à donner des cours de français à l'université.
Donc, FLE, français, langue étrangère.
Voilà. Sans avoir du coup aucune expérience ni universitaire ni professionnelle dans l'enseignement. Et j'ai adoré ça. Ensuite, j'avais 3-4 boulots en fait. Je donnais des cours à la fac, je donnais des cours dans un lycée. Et j'étais également social care worker où je travaillais avec des personnes handicapées à domicile.
Alors moi, je sais que tu as fait du FLE aussi, où tu parlais d'un centre culturel que tu as créé ensuite en Amérique du Sud. Ouais. Donc voilà, là on parle de l'Écosse, qui n'a rien à voir encore, qui reste très occidentalisée comme culture. Mm. À partir de quel moment t'es allé plus loin dans tes voyages et tu as franchi les océans?
Alors, donc après cette expérience, j'ai voulu continuer, parce que j'avais comme envie de continuer mes études, je voulais faire une licence, un master, donc je suis rentrée en France, à Lille, j'ai fait une licence d'intervention sociale, toujours dans le domaine du social. J'ai voulu continuer par un master de sociologie, mais moi ce qui m'attirait c'était plus le côté pratique, et en France quand on fait un master... On est obligé de faire... C'est un master théorique, forcément, la première année. Du coup, je suis partie au Canada. J'ai fait une année d'échange pour pouvoir avoir plus de liberté. Parce qu'en France, c'est assez sectorisé quand même. Quand on étudie la sociologie, on ne peut que étudier la sociologie. Et même après, je suis retournée en France donc pour continuer mon master. J'ai dû demander l'autorisation au directeur pour prendre un module d'ethnologie. Alors que c'est quand même pas si éloigné du master de sociologie. Mais disons que c'est quand même très sectorisé. Donc, je suis partie au Canada.
Définis quand même la sociologie, s'il te plaît.
La sociologie La sociologie, pour moi, c'est l'étude... de l'humanité, en fait, des différents peuples.
Et l'ethnologie, alors?
Et l'ethnologie aussi, c'est l'étude des peuples. Donc, c'est pas tellement éloigné. Donc voilà, je suis partie au Canada, et là, j'ai rencontré... il y avait tout un groupe d'étudiants étrangers, donc il y avait des pays du monde entier. Il y avait beaucoup de Mexicains, et c'est là que j'étais en contact pour la première fois avec des personnes d'Amérique latine, et j'ai beaucoup aimé leur grand cœur. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de lumineux en eux qu'on n'a pas chez nous. Et c'est là que j'ai décidé de... Là, je voulais enseigner du coup le français au Mexique. J'ai postulé. Et comme je n'avais pas de diplôme, du coup, c'est là que je suis rentrée à Strasbourg. J'ai fait un master de FLE. J'ai continué mon master de sociologie. Et après tout ça, je suis partie au Brésil. En fait, je voulais faire un voyage en Amérique latine. donc après avoir terminé mes deux masters. Donc ça, c'était en 2009. Au départ, je voulais pas aller au Brésil parce que le Brésil, pour moi, c'est le pays des inégalités sociales. Donc ça m'attirait pas, je parlais pas portugais. À l'époque, je parlais espagnol. Mais je suis partie en voyage avec une copine du Canada qui, elle, voulait absolument aller au Brésil. Donc du coup, on est partis ensemble, on a voyagé pendant 3 mois. Et je lui ai dit, ben, ensuite, je partirai dans les autres pays toute seule. Sauf qu'au bout de 3 mois, j'ai rencontré mon mari de l'époque. Donc du coup, je suis restée à Rio avec lui et j'ai monté mon école de cours de français. Parce que comme je suis prof de français, du coup diplômée, et qu'il y avait un réel besoin à Rio en termes d'apprentissage du français, du coup j'ai ouvert mon école. Du coup j'ai recruté des profs, puis de fil en aiguille, après j'ai commencé à recruter quelqu'un pour l'administration parce que ça marchait de mieux en mieux en fait, j'avais de plus en plus d'élèves. Puis je suis restée sur place pendant une dizaine d'années. Et puis au bout de 7 ans, je me posais la question, mais en fait, qu'est-ce que je fais ici au Brésil finalement? Enfin, c'est vrai que j'ai monté une boîte, ça marche super bien, financièrement parlant. C'est un beau projet, parce que mon école, c'est pas seulement, l'objectif, c'est pas seulement d'enseigner le français, mais c'est aussi de s'ouvrir à notre monde et de réfléchir un peu de manière critique, comme on a cet esprit critique en France. C'était un peu d'apporter ça aussi et de réfléchir au monde qui nous entoure et d'avoir une réflexion au-delà de simplement enseigner le français. Et puis le deuxième objectif de mon école, c'est aussi de donner accès au français à toute personne intéressée, quelles que soient ses conditions économiques, parce que le français est très cher à Rio. Donc du coup, j'ai mis en place un programme de bourse. Donc il y a des boursiers à l'école qui prennent des cours, qui sont payés en fait par l'école, puisque finalement, quand on a un petit groupe de 7-8, ben, on peut bien avoir une personne qui ne paye pas et du coup, en quelque sorte, les autres payent pour elle. Donc il y a ces deux objectifs à l'école. Donc c'était un beau projet, mais il me manquait quand même quelque chose. Une dimension peut-être un peu plus spirituelle. Et au bout de 7 ans, donc, j'ai rencontré une dame dans les montagnes qui m'a posé des questions que je ne m'étais jamais posées par rapport à mon idéal de vie. Donc elle me disait, voilà, c'est quoi ta mission de vie, c'est quoi ton idéal de vie. Et quand, au fur et à mesure qu'elle me posait des questions, j'avais les mots qui sortaient tout seuls de ma bouche. Et quand on se pose les bonnes questions, en fait, on trouve les réponses. Et j'ai commencé à me former avec elle. Elle donnait un cours d'intelligence émotionnelle, d'énéagramme, qui est une géométrie sacrée. Et en fait, c'est l'énéagramme, moi, qui a changé ma vie parce que c'est un système. Alors, aujourd'hui, c'est utilisé beaucoup pour la personnalité en Europe, aux États-Unis. C'est utilisé en ressources humaines, notamment. Mais bien au-delà de ça, c'est aussi le chemin de l'âme. Donc c'est aussi un outil spirituel, on va dire, pour vraiment se connaître en profondeur. Et quand j'ai découvert l'énéagramme, donc je me suis identifiée à un type en particulier, parce que l'énéagramme, c'est 9 manières de voir le monde. Donc quand on arrive à comprendre comment on voit le monde, quelles sont nos motivations profondes et nos dons, parce qu'en fait, on a tous un don, sauf que souvent, on n'a pas conscience de ce don, parce que comme par définition c'est un don, c'est quelque chose de facile, donc on pense que tout le monde l'a, alors qu'en fait non, c'est une spécificité personnelle. Et quand on connaît son don et ses motivations, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver son métier, de trouver sa mission de vie. Et aujourd'hui, du coup, j'ai développé des ateliers où j'enseigne ce croisement en fait entre la science, les recherches en neurosciences, en épigénétique et les sagesses ancestrales.
Faire un pont entre nos différentes cultures, différentes traditions. Ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est cette notion de remettre du sens. Tu parlais de chemin de vie. On se rend compte que souvent, enfant, on rêve. Et cette phrase qui m'avait marqué, c'est « ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves ». Mais souvent, on se retrouve un peu pris dans un contexte culturel et social, à oublier de se poser les bonnes questions, celles qu'on t'a posées plus tard dans la vie. Quel est le sens que tu veux mettre dans ta vie? Quel est ton chemin de vie? Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, ou en tout cas, j'observe autour de moi de plus en plus de gens qui remettent un petit peu de sens dans un système qui est en train de s'effondrer, de s'essouffler complètement. On a trop axé peut-être nos vies sur une sorte de développement économique et matériel, et on a oublié de se concentrer sur notre développement spirituel, sur notre intériorité, sur ce qui nous fait vraiment vibrer. Tu nous parlais de cette notion de don, qu'on a tous un don, une lumière, une tonalité, une vibration qui fait qu'on est bon pour quelque chose, peut-être artiste, musicien, mathématicien. Et c'est vrai que c'est peut-être important aujourd'hui d'apprendre, quand on a des enfants, de trouver quel est le don de notre enfant et puis l'aider à le révéler à travers ce don pour qu'il puisse plus facilement trouver sa place et offrir sa présence au monde. Toi, ton don, c'est quoi ?
Moi, mon don, c'est l'organisation. La capacité, et c'est ce que je retrouve dans mes ateliers en fait, c'est la capacité à organiser des contenus pour pouvoir ensuite les transmettre plus facilement. Mais mon idéal de vie, c'est faire en sorte que chacun trouve son diamant intérieur et puisse le polir.
Ouais. Polir son diamant intérieur, c'est joli ça.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir.
Donc voilà, je reviens à cette notion de pont entre deux traditions, deux cultures. Tu découvres, tu vis 10 ans, pas loin de 10 ans au Brésil. Tu fais cette rencontre un peu déterminante qui va t'emmener vers ce chemin de l'éveil, ou en tout cas du questionnement intérieur et de ce développement spirituel ou personnel, une différente manière de l'appeler. Donc j'aime bien qu'on vienne de cette partie-là de ta vie. À partir du moment où tu te tournes un petit peu vers ton intériorité, que deviennent tes cours de langue ? Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux, ta vie professionnelle de chef d'entreprise à Rio et cette ouverture sur le subtil ?
Et c'est grâce au Brésil que j'ai découvert en fait cette dimension spirituelle, parce que au Brésil il y a un grand syncrétisme religieux, il y a plein de religions différentes. Ça c'est, et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui m'a étonnée quand je suis arrivée au Brésil, qu'on puisse croire à Jésus, Marie et en même temps au Xung Yemanja, qui sont des représentations de dieux et déesses africaines, et en même temps avoir un lien avec la tradition indigène du pays. Donc comme en France c'est très sectorisé, si on croit en Dieu, ben on croit pas en autre chose. Ça c'était quelque chose que je pouvais pas comprendre. Et du coup au Brésil, je me suis connectée, c'est ça, à une spiritualité en fait, au-delà d'un dieu, au-delà d'une religion. Au fur et à mesure donc de ces formations, de la constellation chamanique, j'ai découvert donc le chamanisme. Sauf que comme le chamanisme c'est à la mode, ça m'intéressait pas du tout parce que je voulais pas suivre un courant de mode, jusqu'à ce que je rencontre des problèmes de santé moi et je commence à suivre un cours de chamanisme avec Atamis Barbala, qui est une chamane à Rio.
Je veux bien que tu me définisses le mot chamanisme, parce que comme tu le dis, c'est un effet de mode. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que pour toi le chamanisme ? Juste pour poser une définition claire de ce mot et de ce dont tu vas parler maintenant.
Alors le chamanisme, pour moi, c'est une philosophie de vie. En fait, c'est une manière d'avoir des relations, que ce soit avec les individus, mais aussi avec les plantes. En fait, avec toute chose qui existe. Parce que dans le chamanisme, on considère que tout a une âme. Que ce soit cette table, mais même ce tapis... Et puis même la voiture, parce qu'en fait, tout vient au départ de matière. En fait, tout vient de la terre. Donc, tout a une âme. C'est l'animisme, en fait, le chamanisme. Et du coup, quand on considère que tout a une âme, ça change complètement notre manière de voir le monde et notre manière d'avoir des relations, notamment avoir des relations avec la nature, la manière de traiter la nature, entre guillemets. Du coup, on s'insère dans un microcosme, macrocosme, qui existe quelque part avant nous. Et en fait, notre place, c'est de contribuer à l'harmonie du monde. C'est que nous, on vit dans le matérialisme scientifique, qui est un parti pris et une croyance, puisque si on observe toutes les recherches scientifiques qui sont faites tous les mois, d'année en année, ben, on découvre de nouvelles choses. Donc en fait, les croyances changent. Et le matérialisme scientifique, c'est... n'existe que ce qu'on peut prouver scientifiquement avec la méthode scientifique. Donc en gros, tout ce qu'on ne peut pas prouver avec la méthode scientifique n'existe pas. Or, c'est pas vrai, c'est juste qu'on ne peut pas le prouver. Mais dans 10 ans, on pourra certainement le prouver, parce que la science avance. Donc en fait, c'est être capable de percevoir les choses au-delà de la matière. C'est ça le sacré.
Alors comment est-ce qu'on arrive à percevoir les choses au-delà de la matière ? Parce que comme tu le dis, effectivement, le chamanisme est quelque chose de très tendance aujourd'hui. On parle aussi beaucoup de reconnexion, reconnexion à la nature, reconnexion au sacré. Et c'est vrai que je pense que c'est important aujourd'hui de resacraliser la nature qui nous nourrit, qui, dans laquelle on vit. On a tendance, quand on observe le monde de vie dans lequel on est, on a pris en otage tous les écosystèmes, toutes les espèces animales, les minéraux, pour les asservir au profit du développement économique et matériel. On vit dans un monde qui souffre réellement d'une famine de l'essentiel. Donc comment on fait ? Par quoi on commence ?
Je pense qu'on peut commencer par l'émerveillement. Comme les enfants, en fait, quand ils découvrent la vie, ils sont émerveillés. Et si, en étant adulte, on peut garder cet émerveillement, là, on arrive à se connecter à quelque chose au-delà de la matière. Et comme tu dis, on peut commencer aussi par la nature. Parce que si on se reconnecte à la nature et on perçoit qu'il existe une harmonie, en fait, dans la nature, il existe, en fait, une force vivante qui fait en sorte que les choses suivent son cours. Il y a des règles dans la nature et elle est comme traversée par une force qui continue, quel que soit ce qui arrive. Les saisons... il y a une organisation, il y a quelque chose qui dépasse la compréhension mentale, en fait. Il y a comme une force qui existe. Et quand on arrive à se connecter à ça, c'est là qu'on commence à toucher au sacré.
Tu parlais de faire le pont, faire le lien entre le côté métaphysique, scientifique, et puis le côté un peu plus éthérique, plus spirituel, le chamanisme. Il y a aussi cette notion de l'expérience. C'est vrai que la science va expliquer beaucoup de choses à travers des théories, à travers des thèses, mais on peut aussi vivre l'expérience du sacré. Donc toi, parle-nous un peu de ton cheminement, et donc quand tu as commencé à te mettre en chemin. Voilà, parle-nous un petit peu de ton itinéraire, de ton processus, de comment est-ce que tu as tout doucement commencé à aller vers le sacré, et peut-être partage-nous quelques-unes de tes expériences qui ont été marquantes.
Alors, je pense qu'il y a une expérience marquante, c'est celle de l'ayahuasca.
Alors, l'ayahuasca, on va le définir aussi, donc c'est aussi quelque chose de très tendance aujourd'hui, cette notion des plantes. Donc c'est un rituel autour d'une plante sacrée ou d'un mélange de plantes, je crois, donc qui est beaucoup utilisé en Amérique du Sud. Donc vas-y, continue.
En fait, c'est un thé qui est constitué de deux plantes, d'une liane et d'une feuille. Et là aussi, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui fait que les Indiens ont su qu'il fallait faire un thé de ces deux plantes-là pour avoir les effets psychédéliques. C'est étonnant quand même. Et justement, les Indiens ont cette capacité, en fait, à communiquer avec les plantes, à écouter le message du grand esprit et le message des plantes pour savoir quoi faire. Donc je suis partie au Brésil et j'ai eu cette expérience de l'ayahuasca. J'en ai pris plusieurs fois. Et la première fois que j'en ai pris, c'est toujours difficile de parler de ce qu'on vit quand on prend de l'ayahuasca, mais en tout cas, j'ai compris qu'il y avait cette présence, en fait, de Dieu ou de la force créatrice. Ça paraît comme une évidence. Il y a quelque chose qui régit l'ensemble de ce monde, en fait. Il y a cette énergie créatrice qui existe, on peut mettre le nom qu'on veut, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler force créatrice ou ce qu'on veut, mais en tout cas, elle est là. Et c'est très différent de la définition du Dieu qu'on a dans le catholicisme, parce que le Dieu qu'on connaît, nous, il a créé le monde en 7 jours, et après, il est parti, et puis maintenant, il nous observe de loin... Et si on n'est pas gentil, il nous tape sur les doigts. Alors que dans le chamanisme, ce dieu-là, ou en tout cas dans l'expérience que j'ai vécue avec l'ayahuasca, en fait, c'est un dieu qui est en perpétuelle création. Donc voilà, il y a eu cette expérience-là.
Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, donc toujours par rapport à cette notion du scientifique et du magique ou du spirituel. Tu parlais du mot psychotrope ou psychédélique, oui. Donc on peut aussi dire, mais en fait tout ça c'est des hallucinations, ça n'existe pas. Avec un esprit cartésien et scientifique. Donc comment, je me pose la question aussi hein, des psychotropes, et c'est vrai qu'ils nous permettent d'accéder à des niveaux de conscience ou des réalités augmentées. Enfin, il y a différentes manières de l'appeler, mais je me retrouve souvent prisonnier de la sémantique des mots, du vocabulaire, de la manière de l'exprimer. Comment est-ce qu'on sait quand on prend l'ayahuasca, le peyote ou l'iboga en Afrique ou les champignons magiques chez nous, les psilocybes, enfin on se rend compte que les plantes des dieux, on les retrouve sur tous les continents et c'est vrai que toutes les traditions ont souvent consommé des plantes comme nous on le fait d'ailleurs pour se nourrir. Dans ma pharmacie, la plupart des médicaments que j'ai sont aussi faits avec des molécules basées sur le monde vivant, les plantes ou minérales. Donc voilà, les plantes sont tout autour de nous, on les consomme depuis la nuit des temps et chaque peuple, chaque tribu, chaque tradition a souvent cette plante médecine, cette plante magique, cette plante qui appartient au domaine des dieux, qui nous permet de nous relier à quelque chose d'autre. Mais comment faire pour savoir si ce qu'on vit est réel ?
Eh bien, on peut faire une étude sociologique et prendre 100 personnes qui prennent de l'ayahuasca, d'ailleurs ça a été fait, et observer quelles sont les visions qu'elles ont. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup les mêmes visions, les mêmes compréhensions. Donc ça, ce serait pour le côté scientifique. Après, si on étudie l'histoire aussi, comme tu dis, dans toutes les sociétés, on utilise des plantes et on a toujours utilisé des psychédéliques. Même ici, hein, ici, on a les champignons. Sauf qu'aujourd'hui, c'est interdit. En fait, c'est quelque chose de naturel, justement, pour pouvoir se connecter à une autre réalité et pas rester dans la réalité uniquement matérielle.
En tout cas, moi, je trouve ça chouette de faire des grands écarts hein, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre et d'une réalité à une autre pour pas se retrouver bloqué dans un système de pensée et de croyances. Parce que finalement, on se retrouve beaucoup là-dedans, dans un carcan de croyances qu'on s'est créé et qui nous empêche des fois de nous élever. Donc je reviens à toi, ton expérience de l'ayahuasca. Donc là, on est au Brésil, dans un contexte un peu particulier aussi, parce que j'imagine que c'est lors d'une cérémonie, on parle de cérémonie accompagnée par des, comment on les appelle, des hommes médecine, avec des chants, les Icaros. Donc reviens peut-être un petit peu cette dimension-là, pour qu'on comprenne bien qu'il est question de tout un contexte aussi culturel quand on va prendre la plante.
Alors moi, quand j'ai pris de l'ayahuasca, je ne l'ai pas fait dans le cadre d'une cérémonie avec des chamans. Ça a été un peu différent. C'est quand j'étais en Amazonie, j'ai trouvé un centre avec une personne qui voulait donner la plante en dehors en fait, de tout contexte religieux. Mais ce qui est important de savoir, c'est que par exemple, au Brésil, l'ayahuasca n'est pas légale. Elle est légale seulement dans un contexte religieux ou cérémoniel. Donc en fait, pour prendre de l'ayahuasca légalement, il faut aller dans un contexte religieux ou alors enfin les Indiens ont le droit d'en prendre. Elle est consommée aussi pour pouvoir se soigner et c'est là où on n'a pas toujours une bonne compréhension en Occident de l'ayahuasca parce que normalement c'est le chaman qui consomme l'ayahuasca. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient le voir qui dit voilà, j'ai tel problème de santé. Du coup, le chaman va prendre de l'ayahuasca pour pouvoir avoir une meilleure compréhension, on va dire plus holistique, de ce qui se passe. Donc, il ne donne pas forcément de l'ayahuasca au patient. Hein. C'est le chaman qui prend de l'ayahuasca pour pouvoir mieux voir. Parce qu'en fait, l'ayahuasca, ça sert à ça. Ça sert, enfin, comme toutes les plantes psychédéliques, ça sert à avoir un autre regard sur la personne, sur la chose, sur le monde. Donc, au départ, c'est comme ça que ça se passe. Après, si le chaman considère que le patient a besoin d'ayahuasca, dans ce cas-là, il va lui en donner. Il va lui demander d'abord de rester 10 jours dans la forêt et puis de manger, de jeûner, de manger seulement certaines plantes.
Ce qu'on appelle les diètes.
Voilà. Puis seulement, éventuellement, au bout de 10 jours, il va pouvoir prendre de l'ayahuasca. Donc, c'est vrai que c'est très loin de la vision qu'on a, nous, en Europe, de l'ayahuasca, où j'ai besoin de prendre de l'ayahuasca, donc je vais me payer un voyage au Pérou, je vais me retrouver avec un chaman qui n'est même pas forcément un chaman, parce que c'est vrai que c'est devenu tellement commercial l'ayahuasca que si on ne connaît pas, on peut se retrouver, enfin n'importe qui peut acheter de l'ayahuasca et l'offrir et faire une sorte de fausse cérémonie. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça.
Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, l'ayahuasca? Si tu arrivais à nous l'expliquer, en quoi est-ce que ça a transformé, qu'est-ce que ça t'a apporté?
La certitude qu'il existe autre chose que le monde dans lequel on vit.
Et à partir du moment où on accède à ce monde, où on a cette certitude, Comment est-ce que ça peut impacter sur notre réalité du quotidien?
Je pense que ça change notre manière de voir le monde et on commence à devenir plus attentif à d'autres informations qui ne viennent pas seulement du mental. C'est-à-dire que pour moi, le cerveau, c'est comme une interface. Donc tout passe par le cerveau. Et la réalité qu'on voit, c'est la réalité, c'est pas la réalité telle qu'elle est, mais c'est la réalité passée au peigne fin à travers le prisme de nos croyances, de nos attentes. Et quand on prend des psychédéliques, justement, on s'ouvre à une réalité qu'on n'arrive pas. C'est comme si on mettait le cerveau un petit peu de côté, on va mettre le mental un petit peu de côté, pour pouvoir capter autre chose. En fait, c'est l'idée d'un poste de radio. Quand on tourne la molette du poste de radio, on arrive à capter d'autres fréquences. Et c'est ce qui se passe quand on prend des psychédéliques. Et du coup, quand on revient sur la fréquence initiale qui est la nôtre, on a des bribes de ce qu'on a pu voir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer au quotidien. Donc, les psychédéliques peuvent être un tremplin vers quelque chose qu'on peut développer dans notre quotidien. On n'a pas besoin, enfin, les psychédéliques, c'est pas une fin en soi. On n'a pas besoin des psychédéliques. Il y a beaucoup d'autres manières de... Parce qu'en fait, c'est une histoire de fréquence du cerveau. Il suffit quand on prend des psychédéliques, on va changer les fréquences de notre cerveau. Mais quand on fait de la méditation, c'est pareil. Quand on fait un voyage chamanique au tambour, le son du tambour va changer les ondes cérébrales et du coup, on aura d'autres fréquences. Donc en fait, il n'y a pas seulement les psychédéliques pour accéder à ça. Il y a beaucoup d'autres manières.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Comment est-ce que le voyage a impacté la personne que tu es aujourd'hui?
Je suis partie en voyage la première fois pour pouvoir mieux comprendre mon pays et ma culture. Donc, quand on est confronté à l'altérité, on se rend compte de ce qui est différent et on se rend compte aussi de ce qui nous unit. Parce que je crois qu'on est beaucoup dans la dualité. Donc, on voit beaucoup les différences alors qu'en fait, ce qui est très important, c'est aussi de voir ce qui nous unit, tous les êtres humains. Et aujourd'hui, je prends des cours de philosophie dans une école à Strasbourg qui s'appelle la Nouvelle Acropole. Et justement, cette école, elle recherche l'unité dans toutes les cultures. Et ça, c'est ce qui me paraît le plus important aujourd'hui.
Qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui? Quel serait ce lien, cette passerelle qui nous unit tous, quelles que soient nos cultures, nos traditions, la couleur de nos peaux, nos manières de penser, nos manières d'être et de vivre?
Ce qui nous unit, je pense que c'est qu'on est déjà tous reliés. J'aime bien cette métaphore. Où c'est comme un collier de perles. Où les perles, c'est chaque individu, et un collier est traversé par un fil. Et en fait, le fil, c'est cette dimension divine. Donc en fait, on est tous traversés par cette dimension divine, et on est tous reliés, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et c'est ça qui nous unit.
Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à nous diviser. Donc c'est peut-être ça le message, c'est apprendre à se rassembler.
Ouais, c'est ça. Et aussi, on a tous des motivations et je crois que nos motivations sont tous les mêmes. On a tous envie d'être heureux. Finalement, le bonheur se retrouve dans ce qui est partagé. Et ça, je crois que c'est universel. Tous les humains du monde retrouvent le bonheur dans les mêmes choses.
Mélodie, on va terminer par une chanson, celle que tu m'as chantée sur le chemin de chez moi. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la place des chants.
Les Icaros sont des chants qui permettent, enfin, sont des chants qu'on reçoit de l'esprit des plantes. Donc, en se connectant en fait aux plantes, on peut recevoir des chants. Et c'est aussi des chants qu'on peut recevoir à travers des chamans. Et quand on chante à quelqu'un, donc on peut chanter un Icaros par exemple pour soigner quelqu'un. Ce que j'aime bien, c'est ce triptyque. En fait, parce qu'on chante pas à la personne pour la soigner. Pour chanter un chant Icaros, il faut qu'on soit connecté à plus grand que nous, il faut qu'on soit connecté à l'esprit. Et parce que nous, on est connecté, la personne en face de nous, par résonance, elle va aussi se connecter. Donc, c'est pas nous directement qui soignons la personne en lui chantant dessus, mais c'est parce qu'on chante, c'est parce qu'on est connecté, on chante et la personne écoute le chant et se connecte elle aussi. Je trouve ça très beau, cette résonance. Et ça, on retrouve ça dans les recherches scientifiques en musicothérapie, en musicologie.
Mélodie, merci.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.